Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur Radio Libertaire pour cette nouvelle émission Livre en lutte. Aujourd'hui, on va parler des librairies et pas que. Et pour ça, on accueille Zocha. Bonjour Zocha. Donc, il prépare un mémoire dans le cadre de son master. Donc, on va commencer par la rencontre parce qu'en fait, on s'est rencontrés à Livre en lutte. Un local de stockage, oui. D'accord, parce qu'en fait, quelqu'un t'a amené à Livre en lutte, et plutôt que de faire un boniment, t'expliquer un truc, en fait, on t'a accueilli à une réunion de bureau, tout simplement, comme ça, t'as pu assister et voir comment ça se passait, quoi. Et je crois que t'as été surprise parce qu'on parlait jamais politique. Bah, c'est exactement ça. En fait, si tu veux, dans les statuts de l'association, on en reparlera peut-être tout à l'heure, il y a le soutien notamment aux journaux qui ne sont pas détenus par des grands groupes. Donc quand on peut, on fait un petit chèque au journal de l'Humanité, mais on ne fait pas que ça. Et puis jamais, ni à la librairie, ni en AG, ni en réunion de bureau, on ne parle politique. Je ne vois pas trop d'ailleurs quel intérêt ça pourrait avoir. C'est vraiment très ouvert en fait ce qu'on fait. Donc je te laisse démarrer.
Et à préparer un mémoire pour le master métier du livre et de l'édition à la fac de Nanterre, au campus de Saint-Cloud. Et j'ai choisi le thème des librairies militantes et de leur place dans les espaces de lutte. Alors pourquoi ? Parce que ces librairies sont quand même assez rares. On en dénombre une vingtaine à Paris et dans la France un tout petit peu plus. Elles sont assez discrètes. Et encore faut-il les connaître. Et ça veut dire, faut-il un peu flâner dans Paris, se balader et découvrir des recoins un peu cachés. Et quand on rentre dans des boutiques, on ne peut pas forcément se rendre compte directement qu'elles sont militantes ou qu'elles ont une politique de fond très, très prononcée sur des thèmes en particulier. Et petit à petit, on se rend compte de la dimension un peu de niche de chaque détaillant. Quand tu rentres, par exemple... à la librairie Quilombo, tu ne t'attends pas directement à ce que ce soit spécialement anarchiste, parce que c'est une librairie de quartier qui est très, très discrète, très mignonne, enfin, la devanture est très chou, et quand tu rentres, tu es vraiment agréablement surpris si c'est ce que tu cherchais. Il y a plein d'exemples type en particulier. Enfin, moi, je pense que la plus marquante que j'ai faite, c'était Les Mots à la Bouche, qui se trouve... dans le 11e arrondissement vers Saint-Ambroise, qui est
37 rue Saint-Ambroise.
Oui, une librairie LGBT et qui s'est spécialisée dans le fond LGBT, queer, roman, sciences humaines et sociales, et tu trouves tout ça dans un seul et même endroit, ce qui te donne lieu à un cadre assez sympa.
Donc tu disais que c'est pas eux qui sont uniquement des bénévoles ?
Alors c'est pas eux. Là pour le coup c'est une coopérative, Les Mots à la Bouche.
D'accord.
Et
une scope en fait ?
Pardon ?
Une scope ?
Une scope, oui. Mmh. Et je pense que par contre il y a une librairie qui peut vraiment s'assimiler à Livre en lutte. Pas forcément dans le projet initial mais juste dans le statut. C'est Publico. Qui est une librairie associative qui ne comporte aucun salarié. Il y avait un salarié à une époque, mais la librairie était trop en difficulté économique pour supporter ce poids. Ce qui fait que maintenant, ce sont juste des retraités qui appartiennent à des mouvances libertaires ou anarchistes qui y travaillent bénévolement. Et les fonds sont reversés à l'AFA, la Fédération anarchiste. Et c'est fréquenté par pas mal de militants. Et en plus, c'est assez original parce que ça se trouve vraiment en plein cœur d'un quartier où démarrent ou finissent des manifestations. Ce qui fait que souvent, quand tu passes dans des manifs, par exemple, je suis passé quelques fois avant le début d'un cortège par rapport à la fin des retraites. Et à chaque début de manif, tu avais environ 40 à 50 personnes qui défilaient à la librairie, qui se parlaient entre eux, qui disaient « Ok, moi j'appartiens à tel syndicat, je vais acheter ça et tout. » Et tu avais un vrai échange sur le mouvement en général. C'était un peu une sorte d'arrière-garde pour les militants, avant de commencer à militer.
Donc un lieu de discussion et de rencontre alors.
Ouais.
Alors, je vais donner les adresses, même si les auditeurs connaissent. Donc, Publico 145 rue Hamelot, donc métro Oberkampf. Et tu as cité Quillombo, c'est 23 rue Voltaire, toujours dans le 11e, métro Voltaire.
Et je pense qu'en fait, il faut vraiment s'intéresser aux librairies militantes, non pas parce que c'est juste... très cool d'y aller, mais c'est aussi parce qu'il y a vraiment une sorte de médiation entre la théorie et la pratique pour les militants et militantes par rapport au fait que quand tu cherches vraiment à construire un mouvement ou quand tu cherches à le solidifier, tu vas chercher des matériaux. Et en fait, je vous ai déjà parlé du coup des mots à la bouche, mais je pense que c'est une librairie qui est assez emblématique de par cette motivation de construire un mouvement. C'est qu'elle s'est créée en 1980, donc un an avant qu'on dépénalise l'homosexualité en France. Et. Un an avant. Je vais y arriver. Et c'était en plein mouvement d'épidémie du sida. C'était en plein cœur du 18e arrondissement, puis ils ont déménagé au Marais. Et il y avait une vraie demande parce qu'il y avait plein de collectifs qui se formaient autour de ACT UP, d'AID. Et il y avait vraiment très très peu de matériaux ou de lecture à avoir à l'époque, au-delà du fait qu'il y avait des brochures, des zines, quelques tracts, et le phare qui avait construit, je crois, une série de revues et d'articles sous forme de bouquins ensuite. Le phare, c'est Front homosexuel d'action révolutionnaire. Et la librairie, durant plusieurs années, a vraiment une grosse demande parce qu'il n'y avait que ça, il n'y avait que cet espace où tu pouvais aller et chercher des réponses dans ta communauté ou chercher des réponses pour construire un mouvement révolutionnaire ou un mouvement qui soit libérateur par rapport aux politiques discriminatoires en France. Et c'est pas encore terminé d'ailleurs. Mais c'était déjà un gros progrès. Et j'ai vu un documentaire hier justement avant de préparer, pour finir de préparer l'émission, qui s'appelait Vie parallèle. Qui parle de la librairie parallèle qui se trouve à Châtelet-Léal. Et c'est une librairie qui est historiquement anarchiste et qui s'est construite vraiment dans les années les plus chaudes du mouvement 68-art et après, quand il y avait vraiment une grosse émulation antifasciste, maoïste, trotskiste, où en fait le Parti communiste se fracassait la gueule. Il y avait vraiment que... des morceaux par terre et il serait plus jamais aussi fort qu'auparavant. Et du coup, il y a plein de groupes dispersés qu'on appelle de façon très générale ultra-gauchistes. Et en fait, entre les trotskistes et les anarchistes, il y a tout un monde qui commence à s'éclore par rapport aux librairies, par rapport aux éditions. On a l'édition Maspero qui fait beaucoup parler d'elle, qui offre deux locaux avec des espaces de discussion autour de livres par rapport au sujet. Anticolonialiste, antisexiste, antiraciste, anticapitaliste. Et beaucoup de gens y allaient pour avoir des vrais débats très poussés et sérieux. Et tu avais aussi tout un mouvement plus, autonomiste qui s'est regroupé et qui a fondé plusieurs établissements, dont Vie Parallèle, Et c'est... Des anarchistes qui ont dit « Ok, on va offrir un espace et on va accueillir toutes les personnes qui voudront proposer des disques de rock, des zines, des bouquins en rapport avec l'anarchie ou l'extrême gauche en général. » Et c'est devenu une sorte de refuge pour beaucoup de personnes et une vraie référence pour l'international en général.
Mais aujourd'hui, c'est un petit peu moins le cas, non ? Moi, je n'ai pas le souvenir de parallèle avec... moi, je me souviens des zines et puis des vinyles, etc. Mais je ne me souviens pas qu'il y ait eu vraiment... D'abord, il n'y a pas tant de livres. Et il ne me semblait pas que c'était aussi marqué, en fait.
Ça a beaucoup changé.
Ah oui, d'accord, ok.
C'était vraiment une époque du zine très importante. Et c'était vraiment un mélange entre le rock, le punk et le zine, donc la culture underground, comme on l'appelait à l'époque, qui était très populaire dans le milieu autonomiste. Et c'était très provocateur. Je me rappelle d'un moment un petit peu culte du documentaire où on voit Dufresne raconter qu'à 15 ans, il sort un zine vraiment très provocateur où il y a la tête de Jean-Marie Le Pen et un morceau de viande, et il avait fait croire aux autres que c'était un morceau de Jean-Marie Le Pen qu'il avait scotché sur le tract, et j'étais morte de rire, enfin, je m'attendais pas à ça. Et du coup, c'était vraiment un cas parmi d'autres de ce qu'on pouvait trouver dans les librairies, qui quand même mélangeaient culture décadente, humoristique et culture de lutte. Parce qu'en fait, les gens en avaient marre du côté beaucoup trop sérieux de la lutte dans les maisons d'édition, les librairies, qui offraient pas un espace underground, justement. Par contre, bon, il y a un sujet qui m'a vraiment beaucoup intéressé, et je pense qu'il faut se montrer sincère quand on essaie de construire des espaces culturels dans la ville. C'est qu'il y a un effet qui est vraiment qu'on peut pas maîtriser ou prévoir forcément, c'est le sujet de la gentrification. Donc en fait, le fait que la ville s'enrichisse et commence à construire des transports en commun, des centres culturels qui soient attractifs par rapport à une certaine clientèle, la clientèle qui se trouve être bourgeoise. Et il y a une ville qui est assez emblématique, et je m'en suis pas mal intéressé par rapport à une librairie qui s'appelle El Borga, Mon Amour, qui est une librairie qui offre une littérature arabophone pour la population qui vit autour de la librairie. Donc en fait, la librairie s'est ouverte durant le Covid. Le projet a émergé un peu avant, et elles en ont parlé à la mairie. Et la mairie avait dit « Ah ben en fait, c'est parfait parce qu'on va rénover le quartier ». Et on va construire des édifices, des cafés, un cinéma, enfin tout ce qui peut vraiment attirer une nouvelle population. Et la librairie se trouve vraiment au cœur de ça. Et dans un périmètre de 5 à 10 km, il y a des cités qui en fait sont des cités qui ont été construites à la fin des bidonvilles. Donc en fait, un réseau d'HLM. Et j'ai parlé à un gars qui travaillait à la mairie de Nanterre, qui m'avait dit que dans très peu de temps, les baux prendraient fin à Nanterre. Et le projet, c'est de reloger ces personnes-là ailleurs, dans d'autres HLM, ou de les laisser partir et de se débrouiller un peu par elles-mêmes. Ce qui fait que la librairie a été ouverte non pas pour offrir un espace qui soit accueillant par rapport à cette diaspora, mais un espace qui va petit à petit, après, se transformer pour accueillir un public plus bourgeois. Par exemple, il y a un truc qui m'a vraiment choqué, c'est que quand la personne qui m'a reçu m'a parlé du contexte de création, elle a dit, on a voulu choisir un nom pour la librairie, ce qui veut dire l'exil en arabe, donc El Borga. Et c'était le seul truc qui posait problème à la région, quand il y a eu des spécialistes qui sont arrivés pour dire bon, ok, on va valider le projet, par contre tout est en ordre, votre politique de fond, elle est correcte, le mètre carré, il est bien, le nombre d'employés, il est correct aussi, tout va bien, par contre le nom ça peut rebuter des personnes ils l'ont pas dit comme ça, mais blanches, ce qui fait qu'en fait ça pourrait pénaliser une partie de la clientèle qui ne voudrait pas venir parce que le nom serait arabe. Et les personnes étaient un petit peu scandalisées et surprises qu'on leur dit ça. Et ça veut juste dire que la mairie et la région, ainsi que d'autres organismes comme l'ADELC, qui est un organisme qui regroupe plusieurs éditions, qui offre des aides aux petites librairies qui sont indépendantes et veulent émerger, ou ne pas tomber dans la faillite, ils ont eu peur que la future clientèle qui va arriver à Nanterre, quand les gens seront partis de leur HLM, ne voudraient pas venir dans les locaux. Et ça pose question par rapport au fait que la librairie, malgré elle, malgré son ambition militante d'offrir un espace d'accueil, de réflexion et d'arrière-garde pour une population qui est souvent méprisée ou qui ne parle pas très bien français et qui peut enfin retrouver une culture arabophone et parler du contexte de Nanterre et de comment ils perçoivent les futures luttes à venir dans la ville, bah, en fait, ça va partir finalement. Enfin, on estime que ça pourrait partir d'ici peu de temps. Et ça ne m'étonnerait pas que dans 10 ans, la librairie ait totalement changé ou ait fait faillite. Parce qu'il y a ce projet de gentrification qui va faire que la ville va totalement changer d'identité.
Bah, ce qui est choquant dans ces projets, c'est que à chaque fois, c'est les habitants historiques d'une commune qui se retrouvent à partir aux confins du département, des fois d'à côté, quoi. C'est assez énorme. Donc, El Gamba, c'est au 148-152 boulevard des Provinces françaises, donc à Nanterre. Et les DALC, en fait, elle peut donner de l'argent aux librairies qui font moins de 300 000 euros de chiffre d'affaires par an. Mais effectivement, j'ai l'impression qu'ils ont leurs propres critères de choix. Et ça ne se passe pas toujours très bien, quoi, avec les librairies qui essaient de faire quelque chose d'intéressant, quoi.
Bah, c'est ce que la librairie Majo, une librairie féministe, m'a expliqué. Majo, c'est M-A-J-O. C'est que quand tu veux avoir une politique de fond dans ton petit commerce qui soit écologiste, soit antifasciste, soit féministe, soit tout ça à la fois, mais qui soit très prononcé politiquement parlant, souvent tu vas rencontrer des obstacles de par la DELC ou d'autres organismes qui pourraient te fournir une aide comme le ministère de la Culture. Et en fait, ils vont refuser parce qu'ils vont dire que ce que tu offres en termes de livres ou de disques ou que sais-je dans ta librairie ne convient pas à un public très général. Ce qui fait que si ta librairie n'est pas généraliste ou pas assez généraliste, tu risques de te retrouver sans rien à part le prêt bancaire. Et c'est ce qui s'est passé pour Majo. On leur a refusé une aide. Enfin, la DELC leur a refusé parce qu'ils ont dit que des livres uniquement féministes, c'était pas vendeur. Alors que, bon, bah, y a quand même une vraie demande, surtout actuellement. Et c'est quand même au-delà du fait qu'ils ont un calcul très méthodique par rapport à est-ce que c'est possible que cette librairie soit rentable ou non, ça reste une décision qui est très idéologique, in fine. Et je pense que quand tu as des critères normatifs par rapport aux librairies indépendantes, tu finis par détruire ce qui fait la richesse d'une librairie, c'est qu'en fait elle a créé une ADN dans un contexte historique donné, et tout ce qui fait le cœur de la spécialisation de chaque libraire part en fumée, parce que finalement si tu accèdes à des critères normatifs, tu vas finir par vendre les mêmes choses à chaque librairie, enfin presque, et c'est dommage. Je pense par exemple à la librairie Le Montant à l'air, qui est située près de Ménilmontant, dans le quartier le moins gentrifié de Paris actuellement, avec le 18e arrondissement. Et le directeur de l'établissement qui m'a reçu m'a expliqué qu'en fait la librairie s'est construite dans un contexte où Ménilmontant n'était pas encore trop gentrifié, et c'est pas encore le cas, où en fait il y avait une culture underground très forte, avec plein de punk, plein d'anarchistes des années 2000, et le gars a réussi à avoir un bail précaire pendant pas mal de temps. Donc il payait presque rien, genre une bouchée de pain, peut-être 350 euros pour avoir la librairie qui était située rue Panoyau à l'époque, avant de déménager quelques mètres plus loin. Et il avait aussi un autre local de stockage plus un appartement. Tout ça pour 350 euros pour les trois espaces. Et le gars organisait dans sa librairie, parce qu'il y avait aussi un jardin, des barbecues, genre saucisses, bières, concerts de punk, ce qui fait que la librairie, c'était vraiment une sorte de d'arrière-garde, pour réemployer le terme, pour pas mal de punk qui étaient dans le quartier et qui voulaient retrouver la culture underground, graphiste, anarchiste, et petit à petit, même si le gars n'était pas forcément à la base anarchiste, de par cet héritage culturel qui a imprégné sa jeunesse et l'a fait grandir, il a tendu vers ça naturellement. Et quand il a engagé d'autres salariés, les salariés qui ont leurs propres histoires, genre un mec qui m'a aussi reçu, qui est très passionné d'histoire et de sciences humaines et sociales, a dit bah, moi je vais diriger ça et je vais vous faire une politique de fonds très, très enrichissante pour les gens qui viendront. Et une meuf qui a dit bah, moi je m'y connais vachement en féminisme et en culture LGBT, du coup je vais vous faire un espace qui soit très accueillant aussi par rapport à ces questions-là. Et bah, le lieu se transforme, mais parce qu'il a une histoire qui s'est insérée dans le quartier, qui avait une logique propre et locale et qui correspondait à la clientèle. Ce qui fait que bah, quand tu ouvres un commerce, tu es forcément contraint de respecter les traditions locales. Et c'est ce qui s'est passé pour El Borga, c'est ce qui s'est passé pour Montonler, pour Quilombo, pour Publico, pour un tas de librairies. Et j'ai l'impression que l'ADELC et d'autres organismes qui sont très normés dans leurs critères veulent gommer. Parce que pour eux, ce n'est pas lucratif. Ce qui veut dire que la richesse qui fait une librairie militante, bah, elle n'est pas comprise quand tu veux faire ton petit syndicat de défense des librairies indépendantes.
Alors, Livre en Lutte avait une librairie à Champigny, ouais. Et puis la mairie a changé de bord, il y a eu un petit projet immobilier, donc on s'est fait virer, ils n'ont pas proposé de nouvelles solutions, et c'est marrant parce que toutes les personnes, le discours a changé à la librairie, mais dans tous les services, quoi. C'est pas du tout le même accueil, c'était beaucoup plus dur, si tu veux, il n'y a aucune esprit de conciliation, c'est plutôt, je t'envoie les huissiers, je t'envoie des papiers, etc. Bref. Et effectivement, alors, je comprends pas la DELC, parce que ce qu'on veut, c'est des choses différentes de la FNAC, quoi. On veut des lieux spécialisés, quoi. Je vois pas l'intérêt d'avoir que des librairies généralistes. Et puis, ces librairies, elles ont aussi des activités. Elles font d'autres choses que vendredi lire, souvent.
Bah, oui, en fait, elles font souvent des espaces de rencontre ou des soirées où elles invitent des intellectuels à parler de leur dernière publication. Par exemple, je pense à Montonner qui avait invité Claude Sarfati à parler de son dernier ouvrage qui est sorti à la Fabrique. Et bah, en fait, tu voyais plein de militants du quartier qui venaient pour rencontrer l'auteur et pour poser des questions. Et après, il y avait un temps d'échange entre nous, on buvait un café, on ramenait des cahiers de bière, enfin, c'était très chaleureux. Et bah, moi j'ai peur qu'on n'ait plus ça dans quelques années parce que bah, Paris et les banlieues proches auront fait la chasse à ces lieux-là. Alors que bon, bah, c'est quand même nécessaire d'avoir ces espaces-là, puisque bah, c'est très dur de rencontrer des associations ou des partis parce que tu ne sais pas où ils s'organisent. Et quand tu ne veux pas forcément rentrer dans un cadre de lutte organisé, bah, des fois tu veux aussi des espaces culturels pour te ressourcer, pour te tenir au courant, parce que c'est pas très joyeux de juste se documenter dans son coin ou chez soi sur son ordinateur. Enfin, t'as aussi besoin de la présence d'autres gens pour réfléchir, et c'est ce qu'offre ces librairies.
Oui, et puis c'est les rencontres, je dirais. Alors, c'est marrant parce que on va reparler du punk. Moi chez Quilombo, j'avais rencontré, il y avait un concert des Trotsky Nautiques, j'ai jamais autant rigolé à un concert, et j'ai rencontré deux personnes, une fille de NPA et un gars de l'UCL, qui sont copains comme cochons et qui font du punk, et que j'ai retrouvé après. Alors tu vois, lui sur Montreuil, il voulait impliquer la scène punk localement. Je lui dis mais c'est quoi ça? Il me dit bah voilà, il fait des puces punk, il fait des trucs, des petites initiatives, où tu peux avoir une personne qui fait une table, elle fait de l'aide juridictionnelle. Il m'avait dit, on peut amener aussi chacun des offres d'emploi, on fait une table offre d'emploi. Et donc, tu as un DJ punk, hein, ça existe. Et des fois après, il se passe encore d'autres choses. Alors, il avait fait pas mal de choses l'an dernier. Cette année, j'ai rien vu passer. Et donc, ben, j'avais tenu une table justement de littérature dans un de ces trucs. Et effectivement, on retrouve. Moi, j'adore le public du punk. Et c'est vrai que là aussi, tu fais des rencontres, quoi. Et des gens impliqués qui sont dans des assos, dans des mouvements, dans des trucs. Voilà, c'est intéressant, quoi. Surtout quand on dépasse les soi-disant différences politiques. Je veux dire. Tu vois, quand j'étais à ce rendez-vous-là, à Montreuil, il y avait vraiment un peu de tout, quoi, tu vois. Et puis, voilà, moi je me souviens, on avait fait des parties de Antifa le jeu. Bon, c'était rigolo. Et puis, tant mieux, parce qu'en fait, il y avait très peu de monde, on a fait ça en juillet. Donc, ça nous avait un peu occupés. Alors, je vais peut-être faire une page musicale avec du punk, et après on reviendra un petit peu sur la gentrification, parce que tu fais un truc sur les investissements, tu parles du capital fixe, des mairies qui sont en concurrence entre elles, et puis après on pourra parler de ma vision à moi de vivre ensemble, en fait, d'une autre façon de construire une politique municipale. Donc on s'écoute les Brassens Not Dead. Donc ça va être du punk, du Brassens, version punk. Ah.
Sexuelle. Et sur les fans des musées, faisait brouillon de ses baisers. Et bientôt petit à petit, on a tout su que c'est lui. Et bientôt petit à petit, on a tout su que c'est lui. On a su qu'il était tout enfant de la patrie, qu'il était incapable de risquer sa vie. Pour qui on y aurait dû saluer de fille. Chez lui, c'est même en revenant chez cet antipathique qu'il tombe victime d'une indigestion critique. Il refait le secours de la thérapeutique. Parce que c'était un Allemand que levait le médicament. Parce que c'était un Allemand que levait le médicament. Et on lui tombait plus son âme marginale. Sa vie n'ayant pas été originale. L'état de vue des funérailles nationales.
Voilà, on revient à notre mission sur les librairies. Donc, dans le mémoire de Zocha, elle parle de la gentrification, des investissements que réalisent les municipalités dans les équipements culturels. Tu dis aussi qu'ils achètent plein de merdailles artistiques. Bon, c'est vrai qu'on a vu des statues et des machins. Pas que. Et donc, tu expliques qu'après, les mairies se retrouvent en concurrence l'une de l'autre parce qu'il faut valoriser ce capital fixe, le mettre en valeur. Donc, je te laisse expliquer ça.
Oui. Alors, en fait, c'est un concept. Le capital fixe, c'est pas nouveau. C'est Marx qui l'a un petit peu mieux expliqué dans son livre Le Capital. Et il y a un géographe qui est spécialiste du marxisme qui s'appelle David Harvey, qui a écrit Géographie de la domination et les limites du capital. Et en fait, qui essaye de comprendre jusqu'où voulait aller Marx dans le tome 3, parce qu'il n'a pas réussi à le finir. Et on va dire que c'est un second Marx. Et même physiquement parlant, il ressemble beaucoup à Marx, ce qui est assez étonnant. Mais c'est une supposition complotiste. Mais en gros, lui, il parle de concurrence interurbaine. Pour les marxistes, c'est très simple. C'est le fait que il y a une inégalité dans les créations d'espaces. Donc en fait, un espace va être plus qualitatif qu'un autre par rapport à sa capacité de rentabilité et de solvabilité. Et c'est très simple, on va faire un exemple bidon, mais une ville comme Montreuil, qui s'est vachement gentrifiée et qui maintenant offre des espaces culturels très, très riches pour une nouvelle bourgeoisie, elle est totalement écrasante par rapport à d'autres villes comme par exemple Champigny qui n'est pas aussi gentrifié encore. Et ce que je trouve intéressant dans son concept, c'est que ça explique plein de choses par rapport à ce qu'on avait vu par rapport à El Borgia à Nanterre, mais aussi à d'autres villes qui commencent à se gentrifier, comme Ivry ou Vitry, là où on s'est rencontrés du coup. Et dans la thèse très générale de Harvey, lui, il dit que pour que les villes soient compétitives, il faut qu'elles créent des infrastructures, donc du capital fixe, donc des structures qui ne bougent pas et qui donnent une identité et une valeur à la ville, genre des parcs, des cinémas, des édifices artistiques. Et il va y avoir, par exemple, des étudiants qui sortent des Beaux-Arts et qui vont dire à la mairie « Oui, voilà, j'ai fait 5 ans d'études aux Beaux-Arts, je m'y connais vachement en art contemporain et du coup, je vais te construire une statue incroyable qui va avoir aucun rapport avec la réalité du monde, mais ça va être stylé et ça va apporter de la thune. » Et du coup, la mairie dit « Bah ouais, carrément, on est en pleine phase de gentrification, du coup, il nous faut de l'art pour attirer un public. » Du coup, bah, elle va dire « C'est parfait, tu vas pouvoir faire des expositions de ton art dans le nouveau musée de la ville. » Et au fil des années, tu vas avoir des investisseurs du BTP qui vont arriver, qui vont dire « Bon, écoutez, c'est intéressant, vous avez une université, vous avez des librairies, vous avez des musées, vous avez en fait tout ce qu'il faut pour que les gens veuillent venir vivre là-bas. Du coup, on va investir dans des locaux, dans des banques, dans des gratte-ciels. » Et c'est un peu ce qui se passe dans la ville de Saclay. Par exemple, à Saclay, il y a eu une ZAD qui s'est construite, la ZAD de Saclay, et qui en fait refuse la construction de la ligne du métro 18. Et en fait, quand tu te balades dans Saclay, donc juste avant que tu tombes sur la ZAD et le champ de la famille paysanne qui risque de se faire exproprier par l'État, tu as une université flambant neuve de Sciences Po. T'as un quartier tout neuf, éco-responsable, et tu dis, mais waouh, en fait, la ville est vraiment prête à accueillir un nouveau public hyper bourgeois ou classe moyenne, et c'est qu'une question de temps. Dès que le métro sera ouvert, il va y avoir une flambée des prix, les loyers vont passer de peut-être, 600 euros à peut-être 800, 900 euros, et c'est énorme pour la ville, ce qui fait qu'elle va pouvoir être compétitive par rapport à d'autres villes, et va se créer ce que Harvey appelle la concurrence interurbaine. Et par rapport au sujet des librairies, ce qui est important à comprendre, c'est que quand tu construis une librairie qui n'est pas associative comme Publico ou Livre en Lutte, mais qui est vraiment un commerce indépendant et qui propose des offres culturelles comme de la musique ou des livres ou des BD, ça va attirer des personnes parce que va y avoir un prix fixe qui, en général, pour les livres, tourne autour de 15-20 euros. Et c'est pas tout le monde qui peut s'en offrir. Et en général, quand tu construis des centres d'art, il faut que ton public, pour le rentabiliser, il soit un public bourgeois. Sinon, ça marche pas. Et ça n'a pas vraiment d'intérêt pour la ville. Donc, la librairie, de façon semi-directe, va participer à cet effet de gentrification. En fait, ça va être symptomatique parce que la ville va dire, écoutez, on a un plan. Et notre plan, il marchera encore mieux si vous êtes là. Donc, El Borga, vous voulez vous installer à Nanterre, c'est parfait. Et en fait, la librairie, quand je leur ai posé la question, a été consciente que ça se passerait comme ça. Mais que, malgré tout, il y avait une demande de la population. Et on verra bien ce qui se passera par rapport à Nanterre. Mais par rapport à Montreuil, c'est déjà en train de se passer. Et je pense que Libertalia, quand elle a ouvert son local, ça a un petit peu participé à ça. Et c'est pas une attaque, c'est juste un constat objectif d'un phénomène capitaliste qui se construit et qui se fait un peu tous les jours et qui est très très fluent et qui rend les frontières d'une ville très poreuses finalement parce que tout change constamment, il faut toujours tout accélérer, il faut toujours tout améliorer et l'art, la culture, les librairies, les musées, le cinéma, tout ça, ça participe à cet élan.
Alors Libertalia, donc c'est de rue Marcelin Berthelot, j'espère que tu as des bonnes nouvelles quand même, ils vont se maintenir.
Ah oui, merci.
Alors là encore, c'est on voit le rapport entre les librairies et puis les maisons d'édition, parce qu'on a parlé des libraires, mais bon, Libertalia, c'est les éditions Libertalia qui l'ont beau, c'est l'échappée, je crois.
Je
crois que tu as le même.
Ils vendent plein de choses.
C'est pas l'insomniaque, mais je crois qu'il y a les mêmes personnes qui travaillent et dans la librairie et dans les éditions, je crois. C'est comme Nada et Obo Diffusion. En fait, ils travaillent aussi dans les organismes de diffusion des livres. Et voilà, c'est ça, c'est intéressant parce que tu parlais aussi des petits éditeurs qui sont les seuls à se lancer dans des traductions difficiles ou dans des bouquins un peu pointus, quoi, un peu intéressant, quoi.
Tu parlais des traductions.
C'est dans ton mémoire. Tu parlais du travail des petits éditeurs, en fait, enfin des éditeurs indépendants.
Ah oui, oui. Ça, pour le coup, c'était vraiment en rapport avec les librairies militantes. C'est qu'en fait, si on finit par perdre ces espaces-là, ça veut dire qu'il n'y aura plus d'espace de refuge pour des éditions qui ont vraiment un projet politique très sérieux. Par exemple, je pense à des éditions comme Amsterdam, Sciences Sociales, ou d'autres éditions qui sont, elles, pour le coup, un peu marxistes, qui peuvent disparaître parce qu'elles sont encore précaires. Et que c'est très dur de se maintenir dans le métier du livre en tant que diffuseur, distributeur, libraire et éditeur. Et les librairies qui sont dans un projet militant, ou en tout cas qui ont pour politique de fond d'inscrire des livres de gauche dans leurs rayons et dans leurs étagères, elles n'existent pas, les éditions qui sont d'extrême gauche ne pourront pas exister à l'avenir, parce que c'est pas Gilbert Jeune ou la Fnac qui va les acheter, et c'est pas Amazon qui va les mettre en valeur, sûrement pas. Du coup, je pense que si on défend pas nos librairies et qu'on continue à financer des grossistes comme Amazon, comme la Fnac, ça risque de s'avérer compliqué pour maintenir une offre de qualité qui soit critique. Et je parlais à un libraire qui est hyper... c'est une sorte de pointe absolue du marxisme et de la sociologie du travail, qui est le libraire Le Point du Jour, c'est ça. Et le mec qui a ouvert sa librairie dans les années 80, c'est un ancien du Parti communiste marxiste-léniniste. Et sa femme, elle est partie de la gauche prolétarienne, la GP. Et le gars me dit que aujourd'hui, à part son établissement et La Brèche, il y a très peu de librairies qui offrent encore une offre de livres critiques en marxisme. Et il a peur que si son projet n'est pas repris par une personne, toute la tradition marxiste qui s'est tournée autour du quartier, où il y a le CNAM et d'autres réseaux universitaires, s'effondre, et qu'il n'y a plus vraiment... de détaillants qui puissent se spécialiser sur ces questions-là et qui puissent proposer une offre de qualité à des passants ou des universitaires ou des chercheurs qui voudraient reprendre un petit peu des concepts marxistes pour penser des sujets de nouveau de société. Donc ça, c'est sa grande peur. Et lui, il parle de crise épistémique du marxisme. En fait, qu'aujourd'hui, on a un regain d'intérêt, mais que les seuls ouvrages qu'on a à disposition, c'est des ouvrages qui datent des années maximum 80-90, et qu'aujourd'hui en France, il ne reste plus qu'un économiste marxiste, un seul, Ferreira, et il est à la fac de Pélisse. Et si jamais tu veux faire carrière en tant qu'universitaire à la fac, si tu parles de... Si dans ta thèse, tu es marxiste ou tu montes ton appartenance marxiste, là pour le coup, t'es foutu parce que plus aucune fac ne pourra t'engager après. Tu peux faire un doctorat, il n'y a pas de souci, mais tu ne peux pas non plus désirer avoir un poste en tant que chercheur enseignant ou maître de conférence. Là, c'est un peu foutu pour ta carrière. Donc, je pense que les librairies, c'est un petit peu les seuls remparts pour sauvegarder ces traces-là. Et même si dans différentes librairies de gauche, plus antifascistes et libertaires, tu retrouves des ouvrages marxistes, tu n'en auras jamais autant qu'à La Brèche, qui est la librairie du NPA. Ou le point du jour. Ça, c'est une certitude, et je pense qu'il faut aussi, quand tu es libraire, conscientiser cette histoire de la pensée critique. Et soit tu fais quelque chose pour essayer de sauvegarder ça, soit ton métier de patient, ça devient un métier juste normatif qui répond à des critères comme ceux fixés par la DELC. Et quand tu es libraire, je dis pas que t'es pas un commerçant, t'as pas une responsabilité énorme, mais t'as une certaine responsabilité si tu veux que ton commerce soit tourné vers un espace donné. Et en fait, si tu fais pas ça, bah, tu deviens une sorte de petit commerçant culturel qui n'a plus vraiment un rapport direct avec les luttes. Et c'est dommage.
Alors c'est vrai que moi, pour dire les choses, j'aime bien aller sur les catalogues en ligne de certains éditeurs, mais des fois ça m'a carrément donné des idées d'émissions en fait. Et quand je regarde un peu ce que j'ai fait, donc la deuxième émission c'était sur les Wooblies. Bon, il y a deux bouquins en France, hein, c'est tout. Donc il y avait Wooblies chez Nada, et puis Wooblies et Yobo chez Insomniac. Bon, c'est un peu léger, enfin c'est un peu léger, ça suffit. Hein. Quand j'ai fait une émission sur le mouvement Harlem Renaissance, donc il y avait un bouquin sur Zora Neale Hurston, une des deux seules personnes qu'on va conserver en fait au niveau de ce mouvement-là. Donc c'était chez Nada, et puis il y avait Angela Davis, Blues et Féminisme Noir, ça c'était chez Libertalia. Il y a eu deux versions, la première, c'est en plus avec un CD, parce que quand même, il y a un joli travail hein, fait sur ces trucs-là. Quand j'ai fait une émission avec Rino Della Negra, alors là, on peut reparler librairie, parce que donc lors d'une AG Livre en Lutte, pour les 10 ans, on avait invité pas mal d'historiens, il y avait Jean Vigreux, et en fait, il venait de sortir un bouquin avec Dimitri Manessi, qui est un historien tout jeune, je pense d'ailleurs que le livre constitue sa thèse, sur Rino Della Negra, c'est un joueur de foot du Red Star de Saint-Ouen, qui faisait partie d'FTP Moy, donc il s'est fait fusiller en 44, et donc il est allé chez Libertalia pour l'éditer. Parce que c'est pas cher aussi, c'est important. Et en fait, j'avais rencontré Dimitri Manessi, lui, quand il était dans les librairies d'Ivry, L'Envie de lire, qui est une SCOP d'ailleurs, et c'est une très chouette librairie aussi. On va passer des gens un peu d'autres librairies et d'autres éditeurs. Hein. Et effectivement, alors après, c'est pareil, quand j'avais fait un truc sur le situationnisme, mais alors très très transversal, hein. C'était juste pour placer des bouquins, des musiques, etc. Bon, c'est mon émission. En fait, j'étais rentré dans une librairie, j'ai demandé, voilà, quel serait le bouquin qui pourrait m'aider, parce que bon, si c'est situ, c'est confus, hein, comme on dit. Et donc, il m'avait conseillé un bouquin de Marcolini, sorti chez l'échappé. Et voilà, il y a ce lien entre les libraires indépendants, les maisons d'édition indépendantes, et super nécessaire, quoi. Et alors, je voudrais revenir sur la gentrification, parce que pour moi, il y a des choses quand même, il ne s'agit pas de faire du misérabilisme, dans les communes les moins riches, et ben, il y a des fois un gros tissu associatif, déjà. C'est pour moi, c'est les mérites du vivre ensemble, quoi. Et il y a le capital fixe, enfin les investissements culturels, et puis il y a les communes qui appuient les associations. Et moi, je vois à Vitry, c'est assez énorme. Et je vois les assos fonctionner, les CCAS, etc. J'en parlerai peut-être un peu tout à l'heure. Mais c'est énorme ce qu'on peut faire. Et c'est un peu plus intéressant que parfois des investissements orientés, etc. Donc, moi j'habite Chevilly, c'est beaucoup plus petit, mais alors il y a un gros tissu associatif aussi. Moi, il y a cette chose-là que j'entends pas, que je lis pas chez Christophe Guillouis, par exemple, c'est cette richesse, en fait, humaine et culturelle, qu'on trouve dans la France, comment il appelle ça, pas périurbaine, la France, ah bah flûte, bref, dans les banlieues, ou les banlieues aussi en province, en fait, qui sont un peu, qui seraient sans vie culturelle, en fait. Il y a quand même des communes en banlieue où il se passe encore des choses, quoi. Et c'est l'intérêt, tout à l'heure j'en parlerai, de tout ce que peut faire Livre en Lutte, ou alors j'en parle maintenant peut-être, parce que tu me demandais quel était en fait le lien de Livre en Lutte avec les politiques municipales, ou les acteurs sociaux, et les associations. Alors j'avais jamais parlé de Livre en Lutte dans cette émission, je vais faire bref, donc au départ c'est une association. Il s'agissait de mettre des livres dans les gares et dans les parcs, etc. C'était Vitry Livre-Échange qui existe encore, on partage des locaux. Après donc, il y a eu cette librairie à Vitry, et puis on essaie de faire pas mal de choses. On fait par exemple des ciné-rencontres, C'est-à-dire qu'au cinéma de Vitry, on invite des historiens ou des personnes d'associations à l'occasion de la sortie d'un film ou pour un film qu'on demande à projeter comme ça. Il y en a eu pas mal, hein. Il y en a eu 4 en 2022. Donc on fait, on est présent parfois dans les CCAS, mais juste on va dire une fois par trimestre ou tous les 2-3 mois. Par exemple, donc là on sait ce qu'on vend, t'as deux bénévoles qui sont là de 10h à 16h, on vend pour 40€ de bouquins parce que là on les vend 1 ou 2 euros. Et dans un centre social, en fait on sait ce que demandent les mamans, c'est des dictionnaires et des bouquins de français. Donc on amène ça, et puis si, des BD ou des trucs pour les gamins. Mais c'est drôle qu'il y ait cette demande, en fait. Donc, les ciné-rencontres, est-ce que je peux en citer? Alors, si tu veux, on en parlera après, tous les deux. On avait accueilli deux anciens de la fraction Armée Rouge, ouais. Karl-Heinz Delvaux et Gabriel Rolnick, à l'occasion de la diffusion d'un documentaire qui s'appelle Une jeunesse allemande, sur les années de paix en Allemagne, on va dire. C'était super intéressant. On avait fait projeter Le rendez-vous des quais de Paul Carpita, le film qui avait été interdit de 54 à 81. On avait fait des choses comme ça. Après, par exemple, quand le film Les Tirailleurs est sorti, à Vitry, il y a une asso qui s'appelle Solidarité Internationale. En fait, ils ont créé une exposition itinérante qu'ils ont produite dans 47 lieux en France, une fois au Sénégal, une fois à Madagascar. Ils n'avaient pas pensé, tu vois, à faire quelque chose. Donc nous, on les a invités au cinéma. Et puis voilà, c'était un débat. Et après, on les a accueillis ici, dans une émission Livre en lutte. C'est intéressant parce que tu as l'expo, la plaquette et le bouquin, qui est très intéressant. Parce que autant dans le film Les Tirailleurs, il n'y a aucun élément de contexte, autant là, vraiment, tu avais pas mal de choses. Donc on fait des choses avec au cinéma, avec les assos. Alors par exemple, bon alors Tatiana est une animatrice sociale à Vitry et pas que, qui fait plein de choses et qui a fait un livre. Donc voilà, bah, j'ai rebondi avec elle. On a voulu la faire signer, bon ça s'est pas très bien passé, il y a eu un petit souci technique, mais c'est pas grave. Et puis on l'a invitée ici, tu vois, on a fait une émission, c'est intéressant. Et elle prépare un deuxième bouquin, donc on va peut-être se revoir. Alors on a fait deux livres. On a fait André Fro, balayeur de rue, une vie. C'est un bénévole de chez nous qui un jour arrive avec un cahier à spirale où il a raconté sa vie, sa maman ceci, d'autres associations, etc. On a mis 2 ans à retranscrire. Et on a fait un petit truc à 400 exemplaires. Et là, cette année, on va sortir un bouquin qui s'appelle Véro Gilet Jaune, parce que Véronique Tahar, c'est la grande figure des Gilets Jaunes à Vitry. Et là, c'est intéressant, parce qu'elle voulait écrire un livre. Donc, elle arrive au Festival du Roman Noir et Social, donc, qui a été lancé par Livre en Lutte. Hein, c'est la 4e édition cette année. Et donc, on lui présente une personne, une autre. Il y a un moment, ça match. Il y a une autrice de polar, Jeanne Desaubry, qui dit « Ok, ça va, moi je vais rédiger ton bouquin ». Et donc cette année on fait un bouquin avec un numéro ISBN. Et donc on nous le livre ce matin, je crois. Et voilà, et puis elle sera là à un stand à la fête de l'UMA, à la librairie. En septembre, on fait une émission avec elle et Jeanne Desaubry. Donc j'aime bien cette histoire de rencontre, etc. Donc, donc Véronique Tahar, un parcours un petit peu très difficile. SDF à 13 ans, une vie très dure, et puis qui encore gilet jaune et qui anime encore le rond-point au McVal à Vitry le dimanche. Donc voilà, on fait pas mal de choses. Moi, ça m'intéresse de rebondir sur les associations de Vitry, que ce soit à la librairie ou au cinéma ou à la radio, et puis c'est important parce que, encore une fois, à Vitry, il y a, paraît-il, à peu près 350 assos. Bon, elles ne sont pas toutes actives, hein. Il y en a au moins peut-être 110-120 qui bossent avec le Centre culturel de Vitry. Un Centre culturel de Vitry qui est une émanation de la mairie, c'est-à-dire que c'est la mairie qui donne le budget, mais ils sont très indépendants, ils choisissent leur personnel, leur directeur, etc. Et donc statutairement, il y a un conseil d'administration avec 20 représentants d'associations. Donc bah, moi j'y suis, hein, parce que justement ça permet de rencontrer encore des personnes et de rebondir. Et puis voilà, c'est ça qui m'intéresse, quoi. Voilà, donc voilà pour ce qui est de la, des relations entre Livre en Lutte avec les assos et puis la, ce que tu appelles les politiques municipales. Mais je, pour moi, Vitry, c'est justement l'intérêt, c'est la vie associative, quoi. Je pense que c'est une autre façon de gérer une commune, quoi.
Bah, je pense que je ne pourrais pas rebondir là-dessus parce que je n'ai pas grandi dans une ville qui était franchement associative. Enfin, j'ai connu Champigny, mais Champigny a ses déclins. Enfin, ça a été une ville qui, pendant 50 ans, a été communiste. Mais ils ont commencé à faire des projets vraiment très contradictoires avec le parti. Je pense à la ligne de métro qui s'est construite. Et même si parfois il y avait vraiment beaucoup d'événements culturels autour du sport et autour de ce qu'organisait la JC, il n'y avait pas grand-chose finalement qui s'est passé dans mon enfance. Donc c'est vrai que quand j'arrive à Vitry ou à Ivry et que je vois qu'il y a autant de choses à faire autour de squats qui ont ouvert, autour d'associations qui proposent des événements avec du coup le CCAS communal, je suis impressionné parce que je me dis mais c'est un chouette endroit pour grandir physiquement et ou politiquement. Et j'espère que ça va continuer dans ces dans cette voie-là parce que moi je sais que chez moi on se fait chier quoi. Enfin, c'est il se passe plus rien. Enfin ouais. Enfin je sais pas comment rebondir pour enfin. Par rapport à toi.
Mmh. Tu veux parler d'autre chose ?
Je pense qu'on a un peu tout dit. Enfin, ouais. Enfin, on pourrait dire d'autres choses, mais ce serait vraiment à côté.
Alors, oui. Alors après, il y avait cette histoire. Je ne sais pas si on a le temps de le traiter correctement. Parce que tu, dans ton mémoire, tu parles un peu des ventres des livres du comité invisible. Moi, j'ai retenu deux choses, c'est que ça ne s'est pas fait à la FNAC. Apparemment, à 90%, c'était dans les petites librairies. Et puis, moi, ce qui m'a intéressé, donc il y a leur livre, c'est à nos amis. Et puis, il y a eu l'autre livre, à nos clients. Donc, ça, c'est la réaction, Anna, à ça. Et ça m'a bien intéressé, ce que tu écris sur le comité invisible. Et tu parles des livres confusionnistes.
Ouais. On va dire que le comité invisible, c'est vraiment emblématique de ce qu'on appelle, enfin, de ce qu'on entend par appelisme. C'est que t'as un collectif ou un regroupement d'individus qui sont pas forcément organisés, qui répandent une bonne parole, souvent très bien écrite, et ils vont essayer de créer une sorte d'émulation culturelle dans, en général, une jeunesse. Et en fait, moi, j'ai vraiment connu l'époque où le comité invisible a fait du buzz. J'étais au lycée. C'était quand j'étais en terminale en 2016, durant le travail. Et c'était incroyable. En fait, j'étais au lycée Hélène Boucher. Et c'est un lycée qui est réputé pour ses nombreux blocus. On est toujours là pour ce qui est de bloquer le lycée. Et je vois tous mes... Enfin, de base, je suis en banlieue. Et j'arrive pour terminer mon lycée à Paris. C'était la seule année où j'étais à Paris, mais c'est là que je me suis radicalisé. Et je vois tous les jeunes qui ont un bouquin du comité invisible. Et je me dis, mais c'est quoi cette mode? Et je commence à le lire. Et même si... c'est totalement éloigné de ce que je fais maintenant en termes de militantisme, parce que je suis pas un art. Mais ça a créé une forme de radicalité en moi, et je pense que j'ai changé à jamais. Enfin, sans le comité invisible, ou sans d'autres apports culturels, j'aurais jamais viré de bord politiquement, et j'aurais jamais été mobilisé dans les cortèges de tête en 2016. Et je pense que, malgré toutes les réponses qu'on a pu... leur attribuer, ils ont au moins ce mérite d'avoir pu être vendus très largement et d'avoir au moins permis à une génération de se former, enfin pas se former, ça sera un trop, trop grand mot pour eux, à se conscientiser politiquement sur plein de sujets.
Alors effectivement, par contre, le comité invisible, Bon, c'est un petit peu... Moi, je viens juste de l'avoir. Je trouve ça très... un peu fouillis. Et le livre à nos clients, qui est par contre très bien écrit, en fait, ils disent que le comité invisible a un peu marchandisé l'insurrection. Ils parlent même de tourisme insurrectionnel. Et ils pointent toutes les contradictions, tu sais, page après page, qui sont un peu pénibles dans nos amis, quoi. Ils parlent même de contresens, etc. Et j'ai bien aimé. Alors, c'est drôle parce que à nos amis, à nos clients, pardon, tu le trouves en PDF, c'est marqué version pirate, mais je pense que c'est fait exprès pour que tu le trouves gratos, etc. Pas du tout la même démarche que, qu'à nos amis, quoi.
Bah, ouais. Après, je pense pas que ils aient voulu faire la thune. Je pense vraiment que c'est pas des gens mal intentionnés. Mais ouais, c'est vrai qu'il y a un petit peu une sorte ils font un peu genre quand tu les lis, ils sont à la fois très radicaux mais ils proposent absolument rien. Et moi je sais que il y a plein de collectifs qui se sont formés autour de ma fac quand je suis arrivé à la fac de Paris 7, et en fait il y avait plein de gens qui ont commencé à se regrouper entre eux après la lecture de plusieurs textes appellistes dont le comité invisible. Et en fait à l'image de ce qu'envoie le comité invisible en termes de stratégie et d'organisation, ils n'avaient rien. Genre, en fait, leur stratégie, c'était de ne pas s'organiser ou d'être le moins organisé possible, mais juste conscientiser politiquement qu'ils avaient conscience de ce qui se passait et qu'ils allaient juste être des gens qui allaient répondre une sorte de bonne parole un peu prophétique et qui allaient dire oui, il faut faire l'insurrection, il faut faire la révolution, mais ils ne s'en donnent aucun moyen. Et quand tu traînes avec eux et que tu cherches vraiment à savoir quel levier d'action tu as entre tes mains pour déclencher ne serait-ce qu'une petite étape qui te conduira vers un mouvement social plus généraliste, plus général que ça, en fait, ils n'ont pas grand-chose à proposer. Et oui, le comité invisible, pour le coup, ils sont bons pour dénoncer, mais ils sont un peu confus sur comment déclencher un mouvement social. Enfin, ils sont totalement déconnectés de la masse et c'est un peu dommage.
Eh bien, Zoucha, on arrive à la fin de l'émission. Merci beaucoup. Donc, tu as d'autres spécialités apparemment. Donc, peut-être qu'on se retrouvera pour faire d'autres émissions autour de livres. Ben, écoute, une bonne continuation, à bientôt. Merci beaucoup, en tout cas. Et puis, on va se passer un petit titre. Bon, c'est fini avec le punk. Mais j'ai trouvé un petit morceau de Daniel Darc, un petit peu en rapport avec le contexte en ce moment, que j'aime beaucoup. Et je vous fais écouter ça. Donc pas d'émission en août, donc septembre une émission avec Véronique Tahar, et après des émissions notamment sur le roman noir et social, sur l'histoire du roman noir et social. À bientôt.
Et l'autre qui brise une vitre, ça forme un angle bizarre. Je trouve ça plutôt chic. De savoir si j'ai tort ou raison, je n'ai aucune mémoire, j'oublie toutes les leçons. Je se brise souvent, ne se répare très vite. Mon corps plus fort qu'avant. Dans mon cerveau habite. Dessine un nageur, vous le croyez, voyez. Si je peins une fleur, vous la voyez fanée.
Libertaire 89.4,
la radio de la Fédération anarchiste, la voix sans Dieu ni maître.
Pour nous soutenir financièrement, on a toujours besoin de vous pour continuer d'émettre et renouveler le matos, par exemple.
Vous pouvez télécharger un bon de souscription pour soutenir votre radio sur le site de la Fédération anarchiste
et qui est bien sûr modulable selon vos moyens.
Ta radio, tu l'aimes ?
Alors tu la soutiens.
Pour télécharger votre bon de souscription à Radio Libertaire, rendez-vous sur le site www.radio-libertaire.net.